Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
C'est un réel plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, bienvenue dans le débat BBC Africa Radio. Bonjour Liliane Niacha, j'espère que vous portez à merveille malgré le confinement du côté de la France.
Bonjour Saint-Ish, oui, tout va bien et on essaye de faire avec, rassurez-vous. Et nous allons commencer notre premier sujet avec le Sénégal. La réponse des autorités à l'immigration irrégulière des jeunes montre-t-elle ses limites ?
Plusieurs jeunes Sénégalais sont morts ces dernières semaines en mer dans des accidents de pirogue alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par l'archipel espagnol des Canaries. Et ce, en dépit des dangers du périple, des rescapés pour certains natifs de Saint-Louis ou Mbour, des villes côtières. Et ils parlent de tentatives désespérées pour fuir la pauvreté. Il y a un air de déjà-vu et entendu au Sénégal et cela fait ressurgir cette question. Le gouvernement de Macky Sall a-t-il donc failli dans sa politique en faveur de la jeunesse ?
En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédié ont déclaré à l'issue de leur première rencontre en pleine tension post-électorale avoir, je cite, « brisé la glace ». Cela suffira-t-il, Saint-Ish, pour amorcer une sortie de crise ?
Et surtout, Liliane, quelle sera la posture des autres leaders de l'opposition après cette première rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédié, une opposition dont plusieurs cadres, parmi lesquels le porte-parole Pascal Affinguesson du FPI, ont été arrêtés et d'autres sont bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre. Henri Konan-Bédié, désigné président du Conseil national de transition annoncé par les partis de l'opposition, les a conviés à une rencontre ce vendredi pour, je cite, « faire le point sur leurs attentes ».
Vendredi, au moment où nous enregistrons l'émission dernier sujet, les craintes d'une guerre civile en Éthiopie sont-elles justifiées ? Depuis une dizaine de jours, en effet, de combats opposent armée éthiopienne et forces de défense de la région du Tigré, dirigées par le Front populaire de libération du Tigré.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a promis une victoire d'ici relativement peu de temps. C'est un rêve éveillé, réplique le président de la région dissidente qui a assuré que le Tigré a les moyens de se défendre. Pendant ce temps, le nombre des personnes fuyant les combats se chiffre déjà en plusieurs milliers vers les pays voisins. Le débat dans un instant, mais avant, découvrons le panel avec vous, Liliane.
Et notre invité cette semaine est le directeur de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte en ligne de Dakar. Bonjour, monsieur Ali Aïda.
Bonjour, BBC Afrique, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
BBC Afrique et Africa Radio, et le journaliste ivoirien Félix Boni nous a rejoint également dans cette émission. Bonjour, Félix.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Ish.
Vous êtes éditorialiste et analyste politique. Vous êtes en ligne d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Petite fiche de présentation de notre invité. Ali Aïda, vous avez été deux fois ministre, d'abord de l'écologie, puis de l'environnement du Sénégal. Vous êtes Sénégalais d'origine libanaise, né le 27 janvier 1953 à Louga. Vous êtes, Ali Aïda, membre honoraire de l'Océanium de Dakar, que vous avez présidé pendant plusieurs années. Et en 2012, vous êtes nommé ministre de l'écologie et de la protection de la nature dans le gouvernement d'Abdoul Mbaye. Puis en septembre 2013, ministre de la pêche et des affaires maritimes. Mais vous démissionnez un an plus tard, M. Ali Aïda. Et depuis 2019, vous êtes donc directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. M. Aïda, avant de commencer, je souhaitais vous demander pourquoi votre passage au gouvernement a été aussi bref, un an à chaque fois.
Bon, vous savez, quand on est un environnementaliste convaincu et qu'on est un idéaliste qui défend une cause qui va à l'encontre des intérêts financiers, des lobbies, en général, on ne reste jamais nulle part longtemps.
C'est-à-dire que ces lobbies ont demandé votre tête ou c'est vous qui n'arriviez pas à changer les choses et avez décidé de partir ?
Moi, je n'ai pas démissionné. On m'a remercié gentiment et j'avais compris que au ministère de l'Environnement, c'était ma lutte farouche contre le trafic de bois où des lobbies intervenaient. Et ensuite, au ministère de la Pêche, j'avais surtout... On devrait changer le nom de ce ministère. Il faut l'appeler le ministère des requins. Il n'y a que des requins là-bas. Alors, les lobbies aussi ont une raison de moi, je crois, à crier au désastre sur les accords de pêche avec l'Union européenne. Et je voudrais bien revenir 5 minutes là-dessus pour développer un peu, que les gens comprennent.
Allez-y, peut-être Saint-Tiche, puisque ce n'est pas dans le sujet, on lui laisse le temps de poursuivre 2 minutes, ensuite on attaque notre premier sujet.
Certainement que ça intéressera notre auditoire. Allez-y, monsieur le ministre.
Oui, alors d'abord, je voudrais dire que très souvent, trop souvent, hélas, et même vous, vous parlez que de la pêche. La pêche ne dépend que du poisson, le poisson ne dépend que de la mer. Donc c'est un ensemble qu'il faut comprendre. Et les gens ne comprennent jamais cet ensemble. Ils parlent de la pêche. La pêche est une activité de prélèvement du poisson. Dans la mer, pour parler simplement, il y a 2 ressources. Des poissons qui se reproduisent rapidement, comme la sardinelle, qui est le principal source de protéines aux Africains. Donc la sardinelle vit 1 an et demi, pond des centaines de milliers d'œufs et se reproduit rapidement. Contrairement à lui, si vous prenez le requin, le mérou des grands fonds, ça vit à peu près 100 ans, 60 ans, ça atteint la maturation sexuelle au bout de 4 ans. Donc, c'est des reproducteurs lents.
Merci.
Alors, quand on a pris ces 2 éléments-là, il faut diviser la mer en 2 grandes parties aussi. La partie profonde, par exemple, si vous allez au nord de Dakar, sur la route du Saint-Louis à Kayar, à 1 km de la côte, vous avez 3000 mètres de profondeur. Donc, vous êtes dans l'océan. Si vous allez à Mbour, à Kafountine ou au Cap Skirin, donc au sud du Sénégal, vous avez le plateau épicontinental. À 100 km des côtes, vous avez 100 mètres de profondeur.
Pour conclure, monsieur Ali Haïda, Saint-Tiche et moi savons que c'est votre domaine, donc vous avez tellement de choses à dire, mais soyez bref, s'il vous plaît, pour terminer.
Bon. Ce que je veux dire, c'est que la vie du poisson est importante. L'état de la santé de l'océan, des océans, est important. Mais on ne parle que de la pêche, du prélèvement de la pêche. C'est ça qui me désole. Il faut parler du poisson et de l'océan.
Très bien. Merci pour
notre premier sujet.
Cette précision. Oui, nous partons donc sur ce premier sujet, des jeunes Sénégalais qui prennent la mer à la recherche d'une vie meilleure. Liliane, ce n'est malheureusement pas nouveau au Sénégal, mais depuis quelques années, le pays n'a plus enregistré autant de départs et de morts. Cependant, pour le mois d'octobre, la marine sénégalaise, appuyée par la garde civile espagnole, a intercepté 5 pirogues partant pour l'Europe. 388 personnes ont été secourues. Et selon le gouvernement sénégalais, une dizaine de jeunes seraient morts. La presse locale et l'Organisation internationale des migrations donnent des chiffres bien plus supérieurs. Ces nouvelles pertes en vies humaines suscitent émoi et colère dans la population sénégalaise. Monsieur Haïdar, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2020, un jeune Sénégalais économise 300 000 francs CFA dans le seul but de payer une traversée clandestine vers l'Europe? Est-ce que vous le comprenez?
Moi, je suis moi-même fils d'immigrés. Mes parents sont originaires du Liban. Ils ont quitté parce que pour eux, à l'époque, ils ne faisaient pas bon vivre là-bas parce qu'ils n'arrivaient pas à assurer leur quotidien. Et je crois que malheureusement, c'est ce qui arrive aux Africains aujourd'hui. Alors, bien sûr, je n'accuse personne. Je dis simplement qu'on ne quitte pas un endroit où il fait bon vivre et ce ne sont pas des gens heureux qui partent. Quand on est heureux, en général, on reste chez soi et on s'épanouit, on se développe. Donc,
Vous comprenez cette envie des jeunes Sénégalais de partir?
Non, je dis qu'on a construit un modèle de société qui est basé sur l'accaparement du bien par une élite au détriment de l'ensemble de la population. Le monde, la planète est pris en otage par un système financier qui favorise une petite, ridicule minorité au détriment de l'ensemble des populations. Il n'y a ni justice, ni équité sociale. Il n'y a pas il y a simplement des gens qui s'enrichissent à outrance et honteusement au détriment des populations. Et donc, des jeunes.
Alors, sur ces nouveaux départs enregistrés au Sénégal, le gouvernement se dit inquiet, mais peut-être aussi a-t-il été surpris par ces récents chiffres que nous avons, de plus en plus de jeunes qui partent, des morts par dizaines ces derniers mois.
Oui, vous savez, pendant le Covid, il n'y a eu aucun départ parce que tout le monde était confiné et les gens qui voulaient partir se sont accumulés. Donc, dès que les frontières se sont légèrement ouvertes, tout le monde est parti. Hein. Moi, je lis ça au Covid. Hein. Et bon, c'est malheureux, hein. Moi, je pense qu'il faut cultiver nos terres, il faut rester sur place, à nous battre pour améliorer notre pays. Et c'est possible, hein, c'est possible, parce que nous avons beaucoup d'exemples de choses qui sont réalisées ici. Au Sénégal, par exemple, c'est au Sénégal qu'il y a le plus grand projet de restauration des écosystèmes de mangroves. Et ce n'est pas en Chine, ce n'est pas aux États-Unis, le pays le plus riche ou le pays le plus peuplé du monde. Non, c'est ici, au Sénégal, qu'on a restauré près de 16 000 hectares de mangroves pour restaurer nos champs de riz, etc. Donc, je pense que tout est possible si on se bat pour arriver à son idéal, à son rêve.
Monsieur Aïda, vous parliez à l'instant de l'accaparement des richesses par une minorité. Pour vous, en quels termes se pose aujourd'hui la problématique de l'immigration clandestine au Sénégal? Et est-ce que vous voyez un lien entre la hausse de l'immigration clandestine et les dysfonctionnements divers que vous avez dénoncés dans le secteur de la pêche dans votre pays?
Entre autres, on peut dire ça, oui, sans se tromper, parce que vous savez, le petit pélagique, c'est un poisson qui sert la pêche artisanale. Et il faut, à mon sens en tout cas, le réserver uniquement à la pêche artisanale. Il ne faut pas permettre à des bateaux étrangers de le pêcher. Mais pour les autres espèces, comme les accords qui ont été signés avec l'Union européenne pour le listao, qui est un thon qui n'est ni consommé ni pêché par la pêche artisanale sénégalaise, ou parce que le Sénégalais pêche le albacore, qui est un très grand thon, mais le listao, non, ou le demersal profond, qui n'est pas pêché aussi par la pêche artisanale. Donc moi, je pense que si simplement on réservait le petit pélagique exclusivement à la pêche artisanale, on résoudrait une grande part du problème.
Cela retiendrait beaucoup de jeunes dans le pays?
Je crois que les gens, ils ont besoin de se sentir protégés, aimés, soutenus. Et c'est dans des décisions politiques qu'on leur montre une image qui leur prouve qu'ils sont pris en compte, qu'ils sont pris en charge. Et c'est comme ça qu'un pays avance. Les gens doivent se sentir fiers d'être là, parce qu'ils participent au changement, au développement du pays, et il faut que nous les amenions à comprendre cela.
Donc pour vous, la situation aujourd'hui qu'on observe, l'État sénégalais en est responsable en partie du fait de la mauvaise organisation du secteur de la pêche?
Oui, ça, madame. Je vais vous donner un exemple. En 1999, le kilo de poulpe coûtait 1750 francs. La pêche artisanale a débarqué du poulpe jusqu'à ce que le kilo tombe à 25 francs CFA, tellement ils ont débarqué. Pourtant, les écologistes ont crié garde à laisser les stocks dans l'océan parce que ça ne servait à rien de les pêcher et de les laisser pourrir dans les plages. Mais la pêche artisanale a continué parce que c'est justement ce modèle économique, c'est l'accaparement du bien. Il faut toujours prendre plus, plus vite, tout de suite, parce que si je ne le fais pas, le voisin va le faire. C'est ce modèle de société que nous avons construit, madame. Vous et nous, c'est la planète qui vit comme ça et qui vit mal aujourd'hui.
Donc vous n'êtes pas surpris un peu de ce que vous constatez aujourd'hui, cette augmentation de nombre de jeunes qui veulent fuir le Sénégal vers l'Europe?
Bon, le Sénégal, vous savez, le Sénégal, c'est la capitale de l'AOS, madame. Tous les pays de la sous-région sont ici.
L'Afrique occidentale française, l'ancienne.
Oui, oui, oui. De toute l'Afrique de l'Ouest, je dirais, moi, la française. Mais en tout cas, tous les peuples de la sous-région sont ici au Sénégal, et Dakar est une grande capitale, donc c'est pas seulement des Sénégalais, hein, c'est beaucoup d'Africains qui passent, malheureusement.
Monsieur Haïdar, c'est vrai que les migrants qui ont été interceptés par la garde sénégalaise et par la marine sénégalaise et la garde espagnole ne sont pas tous des Sénégalais, mais au Sénégal, l'immigration était, on va dire, l'image qui était plutôt collée au Sénégal pendant un certain temps, puis il y a eu comme une accalmie dans le nombre de candidats à cette immigration. En 2020, cela reprend de plus belle. Vous avez parlé tout à l'heure de ce lien avec le Covid. Mais est-ce que il a été fait pendant ce laps de temps, parlons de 2006, où il y a eu un nombre exponentiel de candidats et de morts dans les mers, jusqu'en 2020, est-ce qu'il y a eu des choses, des actions qui ont été posées de façon concrète pour justement retenir les jeunes Sénégalais dans leur pays, selon vous?
Oui, je pense, puisque c'est au Sénégal qu'on a des bourses familiales qui sont données à 10 000 familles. C'est au Sénégal qu'il y a les agents de proximité qui emploient 10 000 jeunes. Donc des efforts sont faits. Mais le Sénégal n'est pas ni un grand pays financier, ni un grand pays développé. Donc les moyens sont limités, surtout avec ce Covid qui a pris les dernières ressources disponibles. Donc c'est pas évident.
Mais le Covid avec ses conséquences, le gouvernement lui-même a parlé de régression économique, a parlé de l'impact sur les différents secteurs. Est-ce qu'on ne pouvait pas prévoir que des jeunes se remettraient sur le chemin de l'immigration à cause justement de ce que le Covid a causé dans le pays? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir et planifier?
Oui, peut-être, madame. Moi, je ne veux accuser personne. Vous savez, moi, je suis un planteur d'arbres qui dit que il faut que nous passions à l'action pour préserver nos ressources. Et je suis dans l'action au quotidien.
Mais vous êtes bien plus qu'un planteur d'arbres, monsieur Haïdar. Vous avez été ministre, vous avez dirigé secteur qu'est l'environnement, la pêche. Ce sont des secteurs importants dans l'économie du Sénégal.
Tout à fait, madame, tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tout de suite revu. Vous avez dit que je suis resté un an, c'était 8 mois, mais entre-temps, j'ai changé le code de la pêche, les tailles marchandes des poissons. Était par exemple un mérou quand je suis arrivé, on pouvait pêcher des mérous de 20 cm. Le mérou se reproduit à 34 cm. Donc cette notion de ne pêcher que des poissons qui se sont reproduits au moins une fois, c'est nous qui l'avons introduit dans le code de la pêche. La sardinelle, on pouvait la pêcher à 12 cm. Maintenant, on a ramené avec le nouveau code à 16 cm. Pourquoi? Parce que les scientifiques disaient 18 cm, mais les financiers, les pêcheurs ne voulaient pas. Donc, on a trouvé un compromis à 16 cm. Tout ça, c'est des améliorations qui sont bonnes, mais bon.
Merci.
On est de plus en plus nombreux sur la planète, madame, à manger de plus en plus de poissons aussi. Hein.
Et monsieur Haïdar, comment appréciez-vous les réponses jusque-là portées par le gouvernement à cette question de l'immigration clandestine? Parce qu'on entend souvent, on entend davantage les membres du gouvernement s'en prendre aux parents, se défouler en quelque sorte sur les parents, accusés de ne rien faire pour retenir les jeunes et les empêcher de partir.
Un jour, je suis allé dans un village qui s'appelle Kamel. Et quand j'ai dit aux jeunes qui étaient partis 10 fois, madame, et retournés 10 fois, vous imaginez, il a à peu près 35 ans, il avait déjà fait 10 tentatives en passant par tous les chemins. Je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu pars tout le temps? Il m'a pris la main, il m'a promené dans le village. Le village, il m'a montré une belle villa. Il m'a dit, tu vois, cette villa appartient à un immigré et je veux faire comme lui.
Vous ne répondez pas, vous avez partagé une anecdote sans répondre à la question sur, en 30 secondes, ce que fait le gouvernement. Est-ce que vous pensez que cette réponse-là est la plus adaptée pour endiguer le phénomène?
Non, je ne pense pas.
C'est-à-dire en accusant les parents?
Je ne pense pas qu'il faille accuser le gouvernement ni les parents. Je pense que nous sommes ensemble dans un panier qui est en train de prendre de l'eau de toutes parts. Et il n'est ni Sénégalais ni Africain, il est mondial, madame. Mondial. Oxfam dit qu'il y a 10 personnes qui possèdent 50% de toutes les richesses de la planète, madame. 1% qui possède 95% des richesses.
Donc vous pensez que les autorités doivent veiller à une meilleure répartition des richesses nationales?
Le monde entier, madame, est pris en otage par le système financier. Ce n'est pas le Sénégal, c'est le monde.
Alors, merci Monsieur Haïdar. Nous allons marquer une pause, Liliane, et nous revenons juste après pour poursuivre le débat sur ce premier sujet à propos du Sénégal.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et notre invité cette semaine est Ali Haïda, ancien ministre sénégalais de l'écologie puis de l'environnement. Il est le directeur de l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte en ligne de Dakar et en ligne d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Le journaliste Félix Boni, éditorialiste et analyste politique. Et pour écouter cette émission ou la réécouter, vous pouvez cliquer simplement sur notre site internet bbcafrique.com et africaradio.com, puis partagez avec nous vos analyses sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, encore quelques minutes sur le sujet Sénégal.
Justement, nous continuons le débat sur le sujet du Sénégal. Monsieur Haïdar, le gouvernement a annoncé l'arrestation d'une vingtaine de convoyeurs de migrants. Est-ce que, selon vous, la sanction appliquée à ce genre d'individus, on va le dire, est à la hauteur pour pouvoir décourager d'autres personnes de se lancer dans ce trafic ?
Bon, c'est sûr qu'il faut qu'on prenne des mesures contraignantes et que ces gens soient arrêtés parce qu'hélas, il y a trop de victimes qui périssent dans l'océan et souvent, hélas, des enfants. Donc, il faut être très sévère avec eux. Il faut éradiquer cela. Et en plus, on a besoin de ces jeunes qui restent dans notre pays pour le construire avec eux. Mais c'est des choses qui prennent du temps. La loi se change avec le temps et j'espère qu'on va y arriver.
Ça va prendre du temps, mais combien de temps en attendant, comme vous l'avez dit, ce sont des jeunes qui périssent dans la mer. Et ce n'est pas un phénomène nouveau pour le Sénégal.
Oui, mais les lois sont de plus en plus contraignantes, madame. Maintenant, les gens ils vont en prison et ils sont poursuivis. Donc, les sanctions sont de plus en plus importantes. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter.
Merci.
Il faut aussi que les populations participent à la surveillance. C'est-à-dire que on connaît les points de départ. Donc, à Mour, il y en a. À Kafountine, il y en a.
À Soumbidjoun,
donc on les connaît. Il faut que les responsables de ces quais, quand même, alertent. Mais souvent, eux-mêmes, ils ont des candidats de migration. C'est compliqué, madame, c'est très compliqué.
Sainte, je propose qu'on écoute notre confrère en ligne d'Abidjan sur ce sujet, cette actualité de l'immigration clandestine dont le chiffre est en augmentation au Sénégal. Vous m'entendez?
Félix Bonny?
Allô, Félix? Je vous écoute.
Allez-y, oui. Félix, votre commentaire sur cette actualité.
J'écoutais l'invité du jour et il a bien commencé en disant qu'on ne quitte pas un endroit où on se sent très bien. Et paradoxalement, quand je regarde les taux de croissance du Sénégal, en 2019, le Sénégal a enregistré un taux de croissance de 6% qui devrait démontrer sa capacité à absorber des phénomènes comme celui de l'immigration, l'oisiveté des jeunes, le problème de chômage, qui sont à l'origine de l'immigration de nos jeunes. Et, en 2019, on parlait d'un taux de chômage de 17%. On parlait également, il y a quelques années, à peine quelques 2018, mais en septembre dernier, de près de 29 000 emplois créés en 4 ans grâce au programme qui s'appelle le Plan Sénégal émergent.
Et le PSE.
Avec tout ça, on peut bien se poser, le PSE, on peut bien se poser la question, mais pourquoi des jeunes continuent d'immigrer? Cela veut dire qu'il faut qu'on jette un regard sur ces emplois qui sont créés. Est-ce que ce sont des emplois stables et durables? Est-ce que ce sont des emplois précaires qui ne permettent pas à ces jeunes d'acquérir véritablement leur autonomie? Mais il faut noter que nous avons 70% de jeunes dans la plupart de nos pays en Afrique et la croissance de nos populations n'a pas généralement suivi le niveau du développement et le faible niveau d'investissement dans les structures créatives d'emploi, tout ça font qu'on n'arrive pas véritablement à absorber ce trop-plein de jeunes. Le système même scolaire et universitaire est parfois pas du tout adéquat. Mais au plus, dans certains de nos pays, comme le Sénégal, le Mali et autres, il y a des familles qui cotisent pour faire partir leurs enfants à l'extérieur parce que c'est un investissement rentable.
Merci.
Donc il y a toute cette politique. Vous avez parlé tantôt de convoyeurs qui existent. Ça veut dire que c'est un système, une mafia bien
organisée. On parle des pêcheurs qui se sont reconvertis faute de pouvoir poursuivre leur boulot. Leur travail, qui se sont reconvertis dans ce secteur de l'immigration clandestine.
Ça veut dire que c'est une activité qui devient de plus en plus rentable dans l'informel. Et ça aussi, je peux parler aussi de la faillite au niveau de nos États qui n'arrivent pas à contrôler le flux de nos populations et à mettre sur pied des systèmes anti-immigration pour pouvoir freiner le phénomène.
Merci beaucoup. Ali Haïda, je voudrais vous poser cette question. Hein. Où en est le Sénégal avec l'adhésion à l'initiative pour la transparence des pêches FITI? Parce que d'après le Forum civil et le PRCM, c'est le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. S'il y a une meilleure transparence dans ce secteur de la pêche, cela pourrait générer beaucoup d'emplois. Alors, est-ce que le Sénégal est en passe d'adhérer à ce FITI?
Bon, je salue les efforts du PRCM et que je connais personnellement. Vous savez, je ne sais pas, je voudrais revenir une seconde sur ce qu'a dit monsieur. les jeunes ne mangent pas la croissance. Nos richesses sont dans la forêt, dans les campagnes et dans la mer. C'est ça que nous allons prélever. Nous vivons des économies de prélèvement. Quand nos mamans sont dans les forêts, qu'elles prennent des fruits, qu'elles vont manger, transformer ou vendre, c'est ça qui les enrichit. Et je suis désolé, mais à chaque fois on entend le monde est perpétuelle croissance et tout le monde est dans les galères.
Merci.
Oui, une gestion de la ressource est capitale, parce que si on gère la ressource, son exploitation est durable. Mais pour cela, il faut comprendre le mécanisme des océans et des reproductions des poissons et gérer les stocks. Mais si on fait cela au niveau de la sous-région, évidemment que...
Mais est-ce que l'outil que propose la société civile, c'est-à-dire cette initiative FITI, peut être une piste, peut aider justement à cette transparence et donc une meilleure gestion qui permettrait de mieux gérer ce secteur? Parce que d'après le forum civil, le secteur de la pêche génère 241 milliards de recettes. Ça, c'était le chiffre de 2014, contre 126 pour celui des industries extractives dont le Sénégal et le Sénégal a adhéré à l'ITIE, par exemple, à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Pourquoi pas le FITI?
Oui. Et en plus, les 241 milliards dont vous parlez sont répartis vers les populations. C'est eux qui vont pêcher, c'est eux qui vont vendre, c'est eux qui vont transformer. C'est ça qui est formidable. Et il faudrait que le Sénégal il adhère, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec la société civile, ce qu'elle dit. Il faut les impliquer plus dans la gestion. Mais il y a beaucoup d'organismes. Il y a la FENAGI, il y a le GAIPES, il y a le FENAMS, il y a le CONIPAS. Il y a tellement d'organisations que, en fin de compte, quand vous appelez à une réunion, en tout cas à l'époque, c'était comme ça chez moi, vous vous retrouvez avec 200 organisations. Vous savez pas trop qui représente quoi. Parfois, ils représentent des mareyeurs, ils ne sont pas mareyeurs. Ils représentent des pêcheurs, ils ne sont pas pêcheurs. C'est très compliqué.
Merci. Hein,
toute une organisation donc à revoir.
C'est vous qui gérez le temps.
Alors, nous allons avancer sur le second sujet.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans la suite du débat BBC Afrique Africa Radio. Notre invité cette semaine est Ali Aïda, ancien ministre sénégalais de l'Environnement et des Pêches. Le journaliste ivoirien Félix Bonny, éditorialiste et analyste politique, est en ligne d'Abidjan. Votre émission est disponible sur africaradio.com et africaradio.com et vos commentaires sont très attendus sur la page Facebook facebook.com/débat BBC Afrique. Radio. Et nous allons parler, Saint-Tiche, de la Côte d'Ivoire avec la rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Conan Bédié. Les deux hommes se sont rencontrés pour tenter d'apaiser le climat politique particulièrement tendu. Et nous allons écouter Félix Bonny. Félix, vous m'entendez?
Très bien, Saint-Tiche.
Alors c'était Liliane.
D'accord.
Ah, Liliane.
Alors, dites-nous, à l'issue de cette rencontre entre les deux hommes, est-ce que cette rencontre a commencé à avoir des effets? Est-ce qu'elle a commencé, par exemple, à déminer un peu la crise et à faire diminuer les violences partout dans le pays?
Évidemment, quelques heures ou deux jours après cette rencontre, on a pu enregistrer des violences dans le pays. Et donc, quand ces deux personnalités parlent de rencontres pour briser la glace, on se demande pourquoi pas avoir brisé cette glace auparavant pour qu'on ait fait l'économie de ces morts atroces et de ces dégâts énormes enregistrés pendant ces deux derniers mois.
Juste sinon, préciser que le Conseil national des droits de l'homme, dans son rapport, parle de 55 personnes tuées, même si les chiffres officiels sont 85 et 282 blessés.
Et de façon très atroce, parce que le mot tuer parfois n'est pas suffisant pour exprimer, j'allais dire, l'état d'appréhension de ces morts qui sont morts de façon très atroce, brûlés, découpés, des horreurs que les Ivoiriens n'ont jamais vues de leurs yeux, et c'est ce à quoi la population a assisté maintenant. Et ça veut dire que cette glace, on aurait dû la briser depuis très longtemps. S'il était possible de briser cette glace, elle aurait pu nous faire l'économie de dizaines et de dizaines de morts.
Félix, oui, Félix, je l'ai dit dans mon introduction, ce vendredi, à l'heure où nous enregistrons donc cette émission, l'opposition a prévu une rencontre. En tout cas, l'ancien président Henri Konan-Bédié a convié les partis politiques de l'opposition pour une rencontre. Qu'est-ce qui pourrait sortir de cette rencontre? Est-ce qu'il sera suivi, si jamais il veut aller au dialogue avec le président réélu Alassane Ouattara?
Évidemment, c'est une rencontre pour M. Henri Konan-Bédié et ses alliés de pouvoir harmoniser leur position afin d'aller au dialogue avec le président Ouattara, c'est-à-dire le pouvoir en place. Un dialogue qui, à la vérité, s'impose aux deux parties parce que c'est un dialogue entre un pouvoir qui a le dos au mur, qui a besoin de reconnaissance, qui fait face à une fronde violente, un pouvoir qui peut avoir du mal à asseoir son autorité, et un pouvoir qui est voué même à une instabilité certaine, mais également aussi une opposition en panne de stratégie qui souffre de cohésion en son sein, une opposition à la recherche de repères qui part d'improvisation en improvisation. Vous avez vu la tentative de mise sur pied d'un conseil national de transition ou d'un gouvernement parallèle dont on ne sait où est-ce qu'il allait siéger. Et une opposition qui, comme le pouvoir, a aussi le dos au mur. Donc, cette opposition se retrouve pour harmoniser ses positions, pour aller au
dialogue. Mais est-ce que l'harmonie est encore possible au sein de cette plateforme? On sait que le porte-parole Pascal Afinguesson est en détention. Bédié rencontre Alassane Ouattara. Guillaume Soro a été assez muet sur la rencontre entre M. Bédié et M. Ouattara. Est-ce que la plateforme de l'opposition est toujours sur la même longueur d'onde, selon vous?
C'est comme s'il y avait eu une même longueur d'onde au départ. Moi, je n'ai jamais cru en l'harmonie au sein de cette plateforme de l'opposition. Chacun y est avec sa calculette et pousse les pions en fonction de ce que ses ambitions, ses projets, que ce soit Guillaume Soro, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit M. Bédié ou les autres acteurs.
Laurent Gbagbo qui devrait avoir son passeport bientôt, puisque Alassane Ouattara a donné son accord ce vendredi au moment où nous enregistrons pour l'établissement de son passeport, d'après la presse ivoirienne.
Exact, c'est ce que l'on a appris, qui devrait avoir son passeport. Donc tous les acteurs de cette opposition, cette plateforme de l'opposition, sont des acteurs qui sont venus chacun avec sa calculette, avec son projet caché de sa poche. Donc c'est une opposition, il y avait des oppositions dans l'opposition, et au point où ils n'arrivaient pas à lancer un mot d'ordre cohérent qui pouvait être suivi par des militants unis dans un élan commun. Et c'est ça qui a fait qu'elle est en panne de stratégie et
Félix
n'arrive pas à mobiliser parce que tout le monde ne suit pas le mouvement.
Encore une question avant de passer la parole à notre invité. Alors, Saint-Tiche mentionnait la rencontre de ce vendredi entre Henri Konan-Bédié et ses alliés de l'opposition, vendredi au moment où nous enregistrons l'émission. Quelles sont les autres pistes de solutions à cette crise post-électorale en dehors d'un éventuel gouvernement d'union nationale avec entrée dans ce gouvernement du PDCI et ses alliés?
Je ne pense pas que M. Ouattara cède à un gouvernement d'union nationale, plutôt à un gouvernement de large ouverture, oui, mais d'union nationale, c'est-à-dire qu'on va s'asseoir pour se répartir les postes. Lui, il est certain d'avoir gagné les élections, les autres l'ont boycotté. Moi, je suis allé, j'ai gagné à 94%. Mais je crois qu'il faudra que le dialogue soit véritablement sincère et qu'on arrive à reformer les structures qui sont objet de discorde entre les deux.
La commission électorale, la Cour constitutionnelle,
indépendante, le découpage
administratif,
électoral, la Cour administrative, la Cour constitutionnelle, pour qu'on puisse aller à des élections législatives véritablement démocratiques. Si l'élection présidentielle n'a pas été à la hauteur, il faudra que les législatives, qui sont quand même le creuset de la démocratie, soient véritablement transparentes, inclusives, et que cela permette de voir qui est véritablement les forces en présence au niveau politique en Côte d'Ivoire.
Et qui ont un consensus de la classe politique au niveau de la commission électorale.
Au niveau de la commission électorale, de tous les organes en charge des élections, pour que les élections législatives qui sont prévues normalement pour le mois de décembre aient lieu dans une ambiance vraiment détendue et que ces élections soient vraiment le reflet de la démocratie en Côte d'Ivoire. Si on s'en sort comme ça, je crois que la Côte d'Ivoire pourrait se remettre encore sur les rails de l'apaisement et du développement.
Alors, excusez-moi, juste avant de poser la question à l'invité, je voudrais une dernière question pour Félix. Est-ce qu'une entente politique pourrait amener des accords dans le domaine judiciaire? Il y a des cadres de l'opposition qui sont actuellement poursuivis. Est-ce que si on arrive à un accord, une entente sur le plan politique, cela pourrait améliorer leur situation?
Je dirais même que c'est indispensable, ça sera l'une des premières l'un des premiers préalables de l'opposition, c'est-à-dire des renoncements à des poursuites judiciaires, notamment contre les partisans de M. Laurent Gbagbo, les partisans de Guillaume Soro et M. Afinguessan, qui devraient éventuellement être relaxés. Je crois que c'est l'un des premiers préalables à sauter pour que éventuellement ce dialogue puisse se tenir sereinement.
Monsieur Alielda, vous m'entendez?
Oui, très bien, madame.
Quelle appréciation faites-vous de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire? 10 ans après rebelote, on assiste aux mêmes tensions et mercredi, il y a eu une rencontre, cette rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan-Bédié qui semble avoir contribué à décrisper un peu l'atmosphère. Quels sont vos souhaits après cette phase qu'on a observée?
Bon, moi, je pense qu'il faut toujours aller vers le dialogue et il faut élargir les gouvernements toujours et mettre des personnes de ressources, les oppositions et tout cela. Mais madame, si vous me permettez, je pense que les Africains doivent sortir des deux mandats, très honnêtement. Il faut organiser des élections très transparentes, très démocratiques et sortir des deux mandats. Parce que partout, c'est le même problème.
Quand vous dites sortie des deux mandats, c'est-à-dire vous voulez qu'on ne limite plus à deux le nombre de mandats présidentiels ou qu'on bétonne cet aspect et qu'il n'y ait même plus possibilité d'en débattre?
Non, moi je pense qu'il faut que les peuples soient libres, mais de la manière la plus transparente et la plus démocratique. Quand il y a une vraie démocratie, il n'y a pas de raison que les mandats soient limités.
D'accord.
Pour moi. C'est mon avis.
Maintenant,
bien sûr, cela passe forcément par une vraie, je dis bien, une vraie démocratie et une vraie transparence.
D'accord. Donc, on travaille davantage sur la crédibilité des institutions qui organisent les élections, mais qu'on laisse un chef d'État, s'il le souhaite, se présenter autant de fois qu'il veut.
Tout à fait.
D'accord.
Mais qu'il y ait deux observateurs de partout, qu'il y ait une vraie démocratie et que les peuples s'expriment. Pourquoi nous obliger à limiter des mandats et ça crée des problèmes partout. Partout, ils revoient les constitutions et donc c'est un système qui n'est pas bon.
Félix, on a encore, je pense, quelques minutes pour parler de la Côte d'Ivoire. Et je voulais vous demander, Félix, vous évoquiez tout à l'heure la possibilité d'un gouvernement de large ouverture et non d'union nationale. Est-ce qu'on peut envisager l'entrée au gouvernement des membres du PDCI et peut-être même de Henri Konan-Bédié comme vice-président pour occuper un fauteuil abandonné par un transfuge du PDCI, Daniel Kablan-Duncan?
Je pense que c'est ce qu'il faut éviter, c'est cette façon de se partager les postes entre formations politiques. Toutefois, un gouvernement de large ouverture qui verrait l'entrée de nouveaux acteurs de toutes les formations politiques. Je pense que même avant son élection, le président Ouattara, dans ses différentes interviews, avait entrevu la possibilité de laisser entrevoir la possibilité de faire appel à quelques cadres de différentes formations politiques pour vraiment ouvrir le gouvernement pour qu'on puisse passer à une sorte de préparation d'une nouvelle jeunesse à prendre le relais de la vie politique en Côte d'Ivoire.
Donc Kakabé pourrait peut-être entrer au gouvernement?
Oui, évidemment.
Henri Konan-Bertin?
À Kakabé, pourquoi pas à d'autres jeunes, Yasmina Mouye, à plein de jeunes au FPI également, qui peuvent rentrer au gouvernement et qui vont permettre de décrisper l'atmosphère parce qu'il faut éviter qu'on ait des gouvernements à sens unique dans une seule famille politique qui donne l'impression qu'un camp mange, parce que le verbe manger est un verbe très apprécié et très conjugué en Côte d'Ivoire, qui donne l'impression qu'il y a un camp qui mange et qu'il y a d'autres qui assistent.
Mais en même temps, pour sortir de la crise, est-ce que c'est évitable? Est-ce qu'on peut éviter ce scénario? Puisque là, déjà, on parle déjà de gouvernement de large, que ce soit un gouvernement d'union nationale ou de large consensus, c'est forcément un partage du gâteau, Félix.
Évidemment, je pense que nous sera difficile au stade actuel d'échapper à ce schéma parce que les élections elles-mêmes ne se sont pas déroulées véritablement comme il se doit. Cela veut dire que ça met M. Ouattara face dos au mur également et qu'il sera obligé éventuellement de partager les postes avec ceux qui sont là parce que le challenger qu'il a eu n'était pas véritablement pas la personnalité de pro avec laquelle il pouvait compétir loyalement. M. Ouattara, aujourd'hui aussi, dos au mur, devrait pouvoir accepter ce partage. La Côte d'Ivoire devait se satisfaire, malheureusement, d'un tel chemin encore pour qu'on puisse sortir de la crise, quitte à organiser de bonnes élections en 2025.
Mais quelle garantie qu'on ne replongera pas dans la même situation au bout de 5 ans?
et vous, vous allez jusqu'au bout, jusqu'à 5 ans. Moi, je ne crois même pas qu'un gouvernement de cette sorte, de crabe et d'araignée, comme on peut l'appeler, pourrait encore tenir jusqu'à 1, 2, 3 ans après les élections législatives déjà, parce que les forces en présence vont s'exprimer avec les élections locales. Je suis sûr qu'un tel gouvernement va encore s'éclater et que dans 2 ans après, la troisième année, lorsqu'on sera en train de préparer 2025, il y aura encore des adversités qui vont... j'allais dire s'afficher en interne. Je ne crois vraiment pas à l'aboutissement de ce schéma.
Pour l'instant, bon, les acteurs auront peut-être changé. Les acteurs auront peut-être changé.
Éventuellement.
Saint-Tich,
merci beaucoup, Félix Boni.
Dernier sujet.
Juste une pause et nous continuons sur le dernier sujet, effectivement.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et notre troisième sujet, c'est l'Éthiopie et cette crainte de voir plonger le pays dans une guerre civile. L'offensive de l'armée éthiopienne sur la région du Tigré, que le gouvernement accuse de sédition, se poursuit avec plusieurs morts enregistrées et des milliers de personnes fuyant les zones de combat. Les dirigeants de la région qui sont issus, vous l'avez dit Liliane, plus haut du Front populaire de libération du Tigré, le puissant parti qui a dirigé les institutions du pays durant presque 30 ans, n'entendent pas se rendre. Ils ont même déclaré avoir les moyens de se défendre. À noter aussi qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé ce jeudi par la justice éthiopienne contre le président de cette région du Tigré et 63 autres personnes considérées comme, je cite, mettant en danger l'existence même de l'Éthiopie. Félix Boni, journaliste, analyste politique ivoirien, mais qui suit de près également cette actualité éthiopienne. Félix, est-ce que vous avez été, on va dire, surpris par l'offensive militaire lancée par le Premier ministre Ahmed, lui qui est un prix Nobel de la paix?
Ben, je n'ai pas été surpris parce que ce qui se passe ressemblait pour les dirigeants éthiopiens à une sorte de sédition, comme une sorte de sécession, c'est-à-dire le Tigré qui réclame une sorte d'indépendance, d'autonomie, un peu à l'image de l'Érythrée, que le même Tigré avait aidé à obtenir son autonomie. Et quand on est au pouvoir, qu'on dirige un État, on ne laisse pas une portion du territoire, prendre son autonomie. Et donc, le Premier ministre qui lance cette offensive, mais malheureusement, qui est dans une posture également gênante parce qu'il appartient quand même au clan actuel au pouvoir, c'est-à-dire les Oromo. Et en lançant cette offensive, ça donne l'impression de lancer une offensive contre un autre clan, c'est-à-dire le clan des Tigrés, qui avait dirigé depuis longtemps.
Ça peut s'assimiler à de la vengeance?
Ça s'assimile à de la vengeance et c'est cela qui alimente et qui donne encore plus d'intensité à la crise qui se radicalise de jour en jour.
Mais on parle des risques de que ce conflit se généralise dans le pays, qui s'envenime, des risques qui sont réels, vu que le Tigré a quand même, on va dire, une force de plus de 250 000 hommes et la région est bien armée, bien équipée militairement. Mais quels seraient les risques pour les autres États fédéraux, les autres régions de l'Éthiopie? Est-ce qu'il y a un risque qu'ils prennent parti pour l'un ou l'autre, soit pour le gouvernement d'Addis Abeba, le pouvoir d'Addis Abeba, ou pour la région du Tigré?
Vous savez, les Tigréens, comme on peut les appeler, ont dirigé ce pays pendant longtemps, alors qu'il y a d'autres populations comme les Amaras, les Oromo et autres. Donc, finalement, les Tigréens ont l'avantage de détenir le poumon économique, j'allais dire le pouvoir économique du pays, parce qu'ils ont quand même le poumon économique du pays, même quand bien même la capitale est à Addis Abeba, ils ont suffisamment de moyens. Moi, je vois plutôt les autres se rallier un peu au pouvoir pour essayer d'équilibrer un peu les choses, parce que les Tigréens ont assez de moyens pour essayer d'aider à rétablir l'ordre social, l'ordre économique également dans le pays. Mais c'est dommage que cette crise dont on parle actuellement se déroule sur la terre de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie qui est une terre symbole de la souveraineté de l'Afrique, l'Éthiopie qui est le siège du bureau régional du Haut Commissariat des droits de l'homme. Quand on entend qu'une partie a été coupée du monde et qu'on ne sait pas ce qui se passe, s'il ne se passe des atrocités, je me demande bien s'il mérite d'abriter le siège du Haut Commissariat des droits de l'homme.
Et aussi de l'Union africaine. Et je m'en vais vous poser...
Et de l'Union africaine.
Voilà. Et je voulais vous demander, Wilfried, avant qu'on écoute notre invité, Félix. L'ONU évoque de possibles crimes de guerre et a d'ailleurs demandé une enquête indépendante sur les nombreux civils qui auraient été tués dans la région du Tigré. Est-ce que cet appel vous semble opportun alors même que le gouvernement central, fédéral, Addis Abeba, essaye de faire face à une sécession?
Des morts, ce sont des morts. Le gouvernement central essaie de faire face à une sécession, mais lorsqu'il y a des morts dans un
des contexte
celui-là où la télécommunication est coupée, les routes sont coupées et qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau, je crois qu'on peut parler de crimes de guerre. C'est comme si on coupe le monde, on ferme le miroir pour qu'on ne voit pas, j'allais dire, l'horreur qu'on est en train de commettre quelque part. C'est pourquoi qu'on peut...
Et justement, dans ces conditions, comment mener une enquête, comme le souhaitent les Nations Unies, comment mener une enquête alors qu'il est impossible, pratiquement, il est difficile, voire impossible, d'avoir accès au lieu pour savoir effectivement ce qui se passe?
On est à l'ère de l'électronique et ceux qui sont là-bas, qui vivent ces horreurs, il y en a qui les filment et qui auront à disposition des éléments à mettre à disposition des enquêteurs. Et d'ailleurs, c'est grâce à ceux qui sont sur le terrain, le théâtre des opérations, qu'on a des informations de l'horreur qui est en train de se commettre là-bas.
Merci.
Et donc, ne soyons pas surpris qu'on puisse avoir les éléments. Même les acteurs, les militaires, il y en a qui filment et qui seront capables de mettre des films et des éléments à disposition des enquêteurs.
Monsieur Adair, vous êtes en ligne?
Oui, j'écoute.
L'Éthiopie semble un peu... Vous dites, pardon?
Je dis, le débat est très intéressant.
D'accord. On souhaite vous écouter aussi sur cette crise qui oppose le gouvernement au Tigré. L'Éthiopie semble un peu seule face à cette crise. Est-ce qu'on peut espérer qu'elle réussisse à maîtriser ces foyers de tension avant que peut-être elle embrase toute la corne de l'Afrique qui ces dernières années semblait quand même apaisée et un peu calme?
Oui, j'espère de tout mon cœur aussi. Et tout à l'heure, M. Félix a dit, les gens vont filmer. J'espère que les films ne seront pas construits. J'espère qu'on n'a pas trouvé de coltan, de l'or, du diamant, du pétrole, parce que c'est souvent, quand il y a ces ressources, qu'on crée des tensions pour séparer des groupes, des gens, des peuples, et pour tirer profit de la ressource. C'est très, très, très souvent, c'est pour ces raisons, mais on construit autre chose derrière. La démocratie, la guerre des peuples, on construit autre chose parce que, bien sûr, on ne peut pas dire à la radio, à la télévision, je veux prendre ton or, etc.
Donc, on fabrique des conflits pour le contrôle des ressources.
Oui, très souvent, c'est le cas, madame. On trouve du coltan, on en a besoin, eh bien, on divise le pays, et après, on nourrit les deux en armement, pendant qu'ils se tirent dessus, nous, on prend la ressource. C'est très souvent comme ça que ça se passe.
Donc, vous soupçonnez qu'il peut peut-être avoir une instrumentalisation des entités ou des pays en dehors d'Éthiopie?
En tout cas, souvent, c'est comme ça que ça se passe, hein, madame. Ce ne sont pas les peuples qui se font la guerre. Les peuples, ils s'entendent toujours. Ils ont des parents de côté de la frontière. Ils s'aiment. Souvent, on construit des conflits pour tirer parti des ressources.
Félix, comment appréciez-vous l'attitude des organisations sous-régionales et continentales comme l'Union africaine? Le président de la commission, Moussa Faki Mahamad, a exprimé sa préoccupation face à cette escalade et a réaffirmé l'attachement de l'Union africaine à l'ordre constitutionnel et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Est-ce que l'Union africaine fait assez, étant donné d'ailleurs que le siège d'organisation a son siège à Addis Abeba? Est-ce qu'elle fait assez, d'après vous, pour peut-être contribuer à ramener la paix dans cette région, ou peut-elle faire encore plus?
Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Il ne faudrait pas limiter l'intervention de l'Union africaine à la position du président de la Commission. L'Éthiopie, comme on l'a dit tantôt, est le siège de l'Union africaine. Si l'Éthiopie, qui est le siège de cette Union africaine, est en train de s'embaser, je pense qu'il faut activer rapidement le Conseil de paix et de sécurité et qu'il y ait des moyens adéquats pour intervenir dans cette crise et mettre fin à ce pays symbole qui abrite quand même le siège de notre continent.
Mais Félix, j'ai envie de vous demander quel type d'intervention l'Union africaine pourrait faire dans ce conflit?
Et là, c'est là qu'on pourra revenir sur peut-être la capacité de l'Union africaine qui s'est réunie à maintes reprises, qui a pensé la mise en place d'une force d'interposition qui n'a jamais été mise sur pied. Donc finalement, je pense que ce sont des organisations qui n'ont que les discours et les déclarations pour tenter peut-être de contacter une partie ou l'autre, mais qui n'ont véritablement pas de pouvoir répressif pour rétablir l'ordre en Afrique.
Un rôle de médiateur.
Et on ne peut rien.
Merci.
Ce rôle de médiateur,
Également, ce rôle de médiateur ne doit pas se limiter au président de la Commission.
Merci.
Il faut
merci.
Que l'Union africaine se réunisse rapidement et désigne un chef d'État pour rencontrer les deux parties et rapprocher les parties en conflit.
Et Saint-Tich, c'est le moment d'écouter les réactions et questions de nos auditeurs recueillies et présentées par Didier Ladislas Lando.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Saint-Tich, bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Immigration clandestine, Yougou Wapi Wapi pointe du doigt la responsabilité des dirigeants africains et estime que quand on a des dirigeants qui ne font rien pour améliorer les conditions de vie de leur population, se tourner vers l'Europe devient la seule option. Abondant dans le même sens, Jean Zounon affirme que c'est le manque de vision et la mauvaise gouvernance des dirigeants africains qui poussent les jeunes vers cette aventure incertain. Dialogue Ouattara Bédié pour Léopold Kouamé, ce nouveau accord politique accouchera d'une souris. Notre internaute met en garde l'opposition et estime que le président Ouattara veut juste se servir de Bédié pour se refaire une image d'homme d'État. Éthiopie, Charles Bazema pense qu'aucun parti ne sortira véritablement gagnant de cette guerre. Pour lui, seul un dialogue sincère et inclusif permettra de trouver une solution à ce conflit et de pacifier la région. Merci à Habib Koli pour sa fidélité. Merci de continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com/le débat BBC Afrique-Africa Radio et sur Twitter à @débat BBC Afrique. Et d'ici là, bon week-end à tous.
Bon week-end à vous, Didier Ladislas Lando. En 40 secondes, Monsieur Ali Haïda, une conclusion générale avec peut-être cette observation de notre auditeur. La crise de l'immigration au Sénégal est due à un manque de vision.
Oui, c'est son avis. Je respecte les avis de tout le monde. Je pense que nous devons être plus généreux entre nous, plus constructifs dans l'avenir de nos ressources et ensemble nous arriverons à nous en sortir. Vraiment, voilà ce que je peux dire en 40 secondes.
Merci et c'est la fin de cet autre numéro du débat BBC Afrique Africa Radio Saint-Tich. Merci à notre invité Ali Haïda, directeur de l'Agence sénégalaise de la réforestation et de la Grande Muraille Verte, ancien ministre de l'Environnement et ancien ministre aussi des pêches du Sénégal. Merci à vous Félix Bonny, journaliste, éditorialiste et analyste politique ivoirien. Vous étiez en ligne d'Abidjan. Réalisation à Dakar, Patrick Tévy. À Paris, Hugo Vallière. Chargé de production, Didier Ladislas Lando. Je vous rappelle que cette émission est à écouter ou réécouter sur bbcafrique.com et africaradio.com. Et vos commentaires sont attendus sur la page Facebook, l'adresse facebook.com/débat BBC Africa Radio. Excellente santé, Saint-Tich. À la
Merci
semaine prochaine.
Merci à vous aussi, Liliane. Au revoir.
Au revoir.